Il est 20h sur la clé des ondes, l'heure d'écouter les clés des savoirs. Les clés des savoirs, c'est l'émission qui vous fait entendre des conférences, rencontres ou débats enregistrés à Bordeaux et ses alentours. On y retrouve des militantes, militants, auteurs, autrices ou universitaires qui nous interpellent et nous font réfléchir. Le mardi 6 février 2024, la librairie du Muguet de Bordeaux a organisé une rencontre avec Hugo Paletta, sociologue et militant, autour des questions de comment faire face à la fascisation de notre société et comment entraver la triple offensive néolibérale, raciste et autoritaire. Et enfin, comment renforcer une capacité d'autodéfense collective. C'est une rencontre riche et très fournie sur un sujet malheureusement d'actualité qu'on écoute pendant une petite heure dans La Clé des Savoirs sur La Clé des Ondes.
Au sujet, pourquoi c'est une question d'actualité, la question du fascisme, et entrer un peu de plain pied dans le sujet, il y a, je crois, au moins 4 raisons pour ça. Et que je vais énumérer, on pourra en discuter après éventuellement. La première et la plus simple et la plus évidente, c'est la montée en puissance électorale des extrêmes droites au plan mondial. Voilà, c'est pas un phénomène français, c'est pas un phénomène européen, c'est un phénomène mondial. L'extrême droite, c'est plus une menace. Enfin, l'extrême droite, c'est une réalité au pouvoir dans pas mal de pays. En Israël, en Turquie, en Russie, en Hongrie, en Italie. Et dans des formes de coalition à différents moments, en Autriche, en Suède, etc. Bon. Généralement en coalition avec la droite. Hein. En Turquie, par exemple, c'est une coalition droite-extrême droite. Bon. En Suède, en Italie, c'est des coalitions de droite-extrême droite. Bon. Mais on a l'extrême droite au pouvoir, c'est plus une simple menace. Et dans d'autres pays, eh bien, on a vu l'extrême droite progresser. Alors justement, dans la période récente, on a vu même l'extrême droite progresser électoralement dans des sociétés qui, jusqu'à maintenant, en avaient été relativement préservées. Je pense en particulier à l'Allemagne avec la montée de l'AFD, l'Espagne avec la montée récente sur les dernières années de Vox, et y compris le Portugal qui était sans doute le dernier pays en Europe où l'extrême droite n'était pas forte électoralement. Il y avait des groupuscules violents dans les rues qui y compris ont tué des gens à différents moments, mais il n'y avait pas de force d'extrême droite institutionnelle et forte électoralement. Et là, il y a il y a eu l'émergence ces dernières années, et là, sans doute, aux prochaines élections qui ont lieu en mars, donc le mois prochain, a priori, la force d'extrême droite dont je parle, Chegg, risque de sans doute de faire autour de 15%. En tout cas, ils sont annoncés autour de 15% dans les sondages, alors qu'il y a 3-4 ans, l'extrême droite ne pesait moins de 1% électoralement dans ce pays. D'ailleurs, en l'occurrence, en Europe, il n'y a plus un seul pays dans lequel on ne trouve pas une extrême droite électoralement forte, ou extrême droite ou droite extrême, si vraiment on veut faire des distinctions. Donc ça, c'est le premier aspect, le plus évident. Le deuxième aspect, c'est qui, à mon sens, est aussi assez évident, c'est la diffusion importante et la banalisation et la légitimation par des acteurs politiques et médiatiques centraux, des idées, entre guillemets, d'extrême droite. Bon, des idées, des affects, des symboles, des images, etc. Leur banalisation dans le débat médiatique, dans le débat politique, dans le débat y compris intellectuel. Ça, je pense que, là encore, j'ai pas besoin de développer outre mesure, mais c'est pas simplement, comme on le dit souvent, dans l'Empire Bolloré, l'Empire médiatique en voie de constitution encore aujourd'hui, puisqu'il essaie encore de récupérer d'autres organes de presse, récemment avec le Journal du Dimanche, par exemple, ce qui, bon, où il a placé un ancien à sa tête de Valeurs Actuelles. Mais on le voit, y compris dans d'autres médias, qui sont, pour l'extrême droite, des médias de gauche, les médias de Radio France, par exemple, et les radios France Inter. Donc vous apprenez sans doute que c'est un grand média de gauche, très à gauche, voire d'extrême gauche. Hein, si on regarde les réseaux de la fachosphère sur Twitter, France Inter est une radio d'extrême gauche. Hein. Donc, vous l'apprenez, mais c'est la vision qu'ils ont des choses. Hein. Bon, sur ces radios-là, on a très régulièrement, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans ou 10 ans, a fortiori, des représentants de l'extrême droite, y compris pas forcément très connus, hein, mais qu'on invite comme des personnes, comme n'importe n'importe qui. Et puis des chroniqueurs, des pseudo-journalistes, des pseudo-experts qui, de fait, appartiennent à l'extrême droite. Ça, il faut mesurer à quel point c'est quand même assez nouveau. Il y a 10 ans, vous n'avez à la radio Marine Le Pen, Florian Philippot, éventuellement Marion Maréchal, etc. Je ne parle même pas, il y a 20 ans, on avait une fois de temps en temps, c'était Jean-Marie Le Pen à la télé. Bon, pour le reste, on ne les voyait jamais. Bon, il y a eu un truc qui a changé, mais radicalement. Je ne sais pas si à quel point on a mesuré ce truc-là, mais au cours des 10 dernières années, on a vu une banalisation de la présence de l'extrême droite intellectuelle, entre guillemets. Je ne sais pas si vraiment... Il faut toujours les appeler, les qualifier comme tels, mais... Et de l'extrême droite politique, celle qui, justement, est présente maintenant assez massivement à l'Assemblée, avec 88 députés maintenant. On a une présence qui s'est banalisée, qui s'est normalisée au sein des médias. Voilà, ça c'est un deuxième aspect. Un troisième aspect, c'est la montée du terrorisme d'extrême droite. Et à l'échelle internationale et à l'échelle française, la montée des violences commises par toute une série de groupuscules d'extrême droite dans dans une grande partie des villes de France. Avec des bastions de l'extrême droite, dans lesquels, je parie, il y a encore quelques jours, il y a plusieurs militants d'extrême droite, y compris un ancien dirigeant des Identitaires sur Lyon, qui ont commis des agressions en laissant au couteau, gisant des gens dans la rue. Il y a quelques jours, et voilà, c'est devenu évidemment très fréquent. Alors, à l'échelle internationale, ce qui est le plus frappant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, les attaques sur le Capitole, mais aussi des actes terroristes qui sont commis par des militants, qui ne sont pas commis par des fous, qui sont commis par des militants d'extrême droite. Hein. Brenton Tarrant, par exemple, ce gars qui a tué plusieurs dizaines de musulmans et de musulmanes à Christchurch en Nouvelle-Zélande, c'est quelqu'un qui se sentait proche des Identitaires, qui a commis d'ailleurs cet attentat islamophobe. Il le dit dans son manifeste, il dit « Je me suis décidé à commettre cet attentat quand j'ai compris que la voie électorale était une impasse pour l'extrême droite. » Et en fait, le symptôme de ça pour lui, pourquoi il a compris que c'était une impasse ? Parce que Marine Le Pen a perdu en 2017 contre Macron au deuxième tour. Il dit ça dans son manifeste, il dit « Voilà, j'ai constaté la défaite de Le Pen ». Et en gros, je me suis dit, la voie électorale institutionnelle, ça ne marche pas. Donc, il faut passer à des moyens plus importants. Et dans une logique qu'on qualifie souvent d'accélérationniste, c'est-à-dire des terroristes d'extrême droite qui se disent qu'en tuant des juifs, en tuant des musulmans, en tuant des gays, en tuant des noirs, aux États-Unis notamment, ou des latinos, ils vont accélérer ce qu'ils estiment être déjà en place, en quelque sorte, c'est-à-dire la guerre raciale. Et en quelque sorte... en contraignant les minorités à réagir, contraindre aussi la majorité blanche ou les majorités blanches en Occident à réagir à leur tour et donc engager une véritable séquence de guerre ouverte, de guerre raciale ouverte qu'ils appellent de fait de leur vœu pour en quelque sorte régler enfin leur compte avec ceux dont ils estiment qu'ils ne devraient pas être là et qu'ils les remplacent, etc. Et puis le dernier aspect de l'actualité de la question du fascisme, c'est la montée des autoritarismes d'État et des racismes d'État, qui sont particulièrement visibles, il me semble, en France. C'est moins le cas dans d'autres sociétés européennes, mais en France, c'est particulièrement le cas. Quand j'ai sorti le bouquin, le premier, en 2018, La possibilité du fascisme, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, alors pas forcément des macronistes, mais parfois des gens qui avaient voté Macron au premier tour en se disant « comme ça, on va éviter un deuxième tour Fillon Le Pen ». Ce n'est pas ce que j'ai fait, hein, évidemment, mais des gens que je connais qui ont pu faire ça, et qui me disaient « Ouais, t'as quand même un peu la dent dure sur Macron. Macron, effectivement, c'est un néolibéral, sur le plan économique et social, il n'y a pas de doute. Mais Macron, effectivement, en 2017, avait mené une campagne que beaucoup de gens avaient considérée comme relativement progressiste sur les questions dites sociétales, c'est-à-dire sur les questions, par exemple, de l'islamophobie, sur les questions, y compris de la Palestine, où il avait dit des trucs, il avait dit « il faut dire à Israël quand Israël fait de la merde », etc. Enfin bon. Il avait, sur toute une série de questions, il avait cherché à se distinguer, par exemple, de Manuel Valls. Bon. Et adopter une ligne libérale, pas libertaire, je ne vais pas dire ça, mais libérale et en même temps... vaguement progressiste sur toute une série de questions qui sont un peu des marqueurs dans le champ politique français, sur la question en particulier de l'islamophobie, même sur la question des libertés publiques, etc. Et en fait, on a vu assez rapidement, entre 2017 et 2022, et encore davantage au cours du deuxième mandat, ce qu'il en était, et sur le plan des libertés publiques, et sur la question du racisme, avec par exemple ces lois jumelles liberticides qui ont été la loi séparatisme et la loi sécurité globale qui composaient en quelque sorte un ensemble cohérent avec l'idée on va désigner un ennemi de l'intérieur, les musulmans, l'islam, etc. Et au nom de cet ennemi intérieur, c'était juste après l'attentat qu'il y avait et l'assassinat de Samuel Paty, au nom de la présence sur notre sol de cet ennemi de l'intérieur, qu'il faut châtier, dont il faut fermer les lieux de culte, etc. Bon. Qu'il faut en permanence cibler, montrer qu'ils sont dangereux, menaçants, etc. Il faut renforcer l'arsenal sécuritaire, les possibilités pour l'État d'intervenir, y compris hors de toute forme légale, légaliser les formes d'intervention de l'État qui pouvaient relever antérieurement de l'état d'urgence, mais qui aujourd'hui relèvent du registre ordinaire d'intervention de l'État. Très clairement, c'est, on le dit dans le livre notamment avec Ludivine Bantini, l'historienne, c'est ce qui nous semble être une première étape d'un processus de fascisation, en se disant que la fascisation, c'est-à-dire le processus qui peut conduire, qui ne conduit pas nécessairement, mais qui peut conduire à un régime de type fasciste, ça tombe pas du ciel, ça vient pas d'un seul coup, il n'y a pas un régime fasciste qui apparaît d'un seul coup, y compris après une victoire électorale de l'extrême droite, c'est pas comme ça que ça se passe. L'extrême droite peut arriver au pouvoir, y compris ne pas être en capacité de mettre en place le type de régime auquel ils aspiraient, mais donc il faut qu'il y ait un processus, et la première étape, c'est un processus en général qui précède l'arrivée au pouvoir des extrêmes droites et qui amène l'État bourgeois traditionnel, l'État capitaliste traditionnel, à opter pour des voies de moins en moins démocratiques, qui respectent de moins en moins la légalité bourgeoise. Donc il faut quand même mesurer, c'est-à-dire que historiquement, la bourgeoisie a construit son régime sur l'idée que de démocratie parlementaire, de démocratie aussi libérale, c'est-à-dire fondée sur un ensemble de libertés démocratiques fondamentales qui sont en grande partie reniées aujourd'hui, la liberté de manifester, y compris la liberté de s'exprimer, on le voit dans le contexte de la guerre à potentiel génocidaire que mène Israël contre le peuple de Gaza, les Palestiniens de Gaza, on voit à quel point, y compris la liberté d'expression, se trouve entravée avec des poursuites, par exemple pour des universitaires qui ont pu prendre des positions contre la politique de l'État d'Israël, etc. Et pas qu'en France, évidemment. Donc tout ça, évidemment, c'est quand même un aspect dans le problème du fascisme, même si ça ne concerne pas en premier chef les forces d'extrême droite, mais c'est en quelque sorte un processus qui prépare qui prépare d'abord la victoire idéologique et électorale de l'extrême droite, et qui prépare aussi des régimes d'extrême droite, puisque évidemment, des extrêmes droites qui parviennent au pouvoir dans un cadre étatique qui a évolué vers plus d'autoritarisme d'État, plus de racisme d'État, c'est une extrême droite qui va évidemment profiter de cet arsenal sécuritaire, de cette base juridique qui lui permettra de s'attaquer à l'ensemble de ceux et celles qui s'opposeront à son règne. Alors voilà, alors peut-être pour continuer, je vais essayer de ne pas être trop long, mais il y a peut-être deux, trois questions que je voudrais évoquer. La première, parce que je ne suis pas sûr que ça va de soi, c'est finalement de quoi on parle quand on parle de fascisme. Bon. Qu'est-ce qui caractérise spécifiquement le fascisme ? Parce que, on a plein d'ennemis. on a utilisé le mot ennemi, ils ont des ennemis, nous, mais on a aussi des ennemis et ils ont plusieurs visages. Parce que parfois, c'est vrai que dans les discussions, on dit, mais pourquoi finalement focaliser sur l'extrême droite ? Aujourd'hui, c'est pas l'extrême droite en tant que telle, historiquement, qui est au pouvoir, c'est les macronistes, des gens, y compris, qui viennent du Parti Socialiste, des gens qui viennent plus de la droite, qui se sont retrouvés dans le cadre de la Macronie. C'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui mènent des politiques autoritaires, c'est eux qui mènent des politiques racistes, c'est eux qui mènent des politiques néolibérales. Pourquoi parler de l'extrême droite ? Bon, on parle de l'extrême droite parce que c'est en quelque sorte l'autre visage de notre ennemi, de notre ennemi de classe. Bon. Mais du coup, il faut le comprendre, cet ennemi. Il faut comprendre comment il fonctionne, il faut comprendre de quoi il est fait, quelle est sa nature. Et je crois que c'est pas juste un débat finalement d'histoire, quoi. Alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai beaucoup tenu ces dernières années à appeler un chat à chat, à utiliser la catégorie de fascisme ou néofascisme pour néofascisme permettant de dire évidemment c'est pas le fascisme exactement sous la forme de l'entre-deux-guerres. Après, en vrai, même dans l'entre-deux-guerres, vous aviez toute une variété de fascismes différents. Donc, chaque fascisme a toujours eu des caractéristiques tout à fait spécifiques, tout à fait singulières. Et d'une certaine manière, c'est un peu pareil quand on navigue, non pas dans l'espace, mais dans le temps. Quand on passe du fascisme des années 20 ou 30 et au fascisme d'aujourd'hui, bon, il y a des variétés, des différences. C'est pas la même chose exactement. Mais l'idée derrière ce que je développe, c'est qu'il y a suffisamment de traits communs pour qu'on parle de fascisme et pour qu'on parle pas, par exemple, pour qu'on ne parle pas par exemple de populisme, qui est typiquement une catégorie qui nous détourne des problèmes. Je vais juste, je dis en deux trois phrases, je fais une parenthèse là-dessus. Pourquoi populisme, qui est la catégorie qu'utilisent les médias en grande partie, mais aussi pas mal de politistes, politologues, etc. quand ils parlent de l'extrême droite, pourquoi c'est une catégorie qui est trompeuse et qui nous amène à faire fausse route? Je donne deux trois raisons. La première, c'est qu'il faut bien noter que populisme, au départ, c'est une catégorie en grande partie, un peu comme totalitarisme d'ailleurs, inventée pour mettre dans le même sac la gauche et l'extrême droite. Bon. Le totalitarisme, c'était la gauche communiste à l'époque de la guerre froide, etc. C'est typiquement une catégorie de guerre froide, totalitarisme. C'est le communisme et le nazisme, c'est la même chose, etc. Bon. L'extrême gauche et l'extrême droite, c'est pareil. Etc. Bon. Et aujourd'hui, c'est au nom non plus du totalitarisme, qui est aujourd'hui une catégorie un peu démodée, même si on la voit réapparaître régulièrement, mais au nom de la catégorie de populisme. Hein. L'extrême droite et la gauche, même pas l'extrême gauche, la gauche. Mélenchon, c'est pas l'extrême gauche. Enfin, on va se le dire tranquillement. Mélenchon, c'était un sénateur socialiste. Il a été ministre sous Jospin. Son programme. C'est pas une critique, je veux dire, mais c'est son histoire politique, c'est ça. C'est pas l'histoire de l'extrême gauche. Alors, si, dans les années 70, il a été membre d'un groupe lambertiste. Enfin, bon, peu importe. Mais depuis les années 80, c'est quelqu'un qui vient du Parti Socialiste et c'est pas quelqu'un d'extrême gauche à proprement parler. Mais je pourrais parler de Jeremy Corbyn, qui était le chef du Labour Party, un parti de centre-gauche, qui a été accusé en permanence de populisme. Bernie Sanders, pas vraiment, mais il a été accusé de populisme. Et à chaque fois, l'idée, c'est de mettre sur le même plan quelqu'un comme Bernie Sanders, qui réclame des choses incroyables comme la gratuité des soins ou la fin de frais d'inscription absolument exorbitants dans les universités américaines, genre 40 000 dollars par an, et de le mettre dans le même sac que Trump. Vous voyez ce qu'est l'objet Trump, quoi. Un multimilliardaire absolument misogyne, raciste, islamophobe, homophobe, etc. Enfin, ça, c'est pareil que Bernie Sanders, parce que tout ça, c'est populiste. Bon. De la même manière, je sais pas, Chavez et Bolsonaro, donc Mélenchon et Le Pen, etc. Bon, donc populisme, c'est d'abord une catégorie qui permet ça, en fait, qui a pour fonction, une fonction essentiellement polémique et politique, qui consiste à, pour l'extrême centre, ceux qui occupent le centre du jeu politique, le centre gauche, le centre droit, typiquement Macron, pour l'extrême centre, de désigner enfin un seul ennemi qui serait le populisme ou les populismes, mais qui communierait en quelque sorte dans une vision, dans quelque chose qui serait dangereux pour la démocratie, parce que ça appellerait au peuple, etc. Bon. Bon, il y a une autre raison pour laquelle populisme, ça ne conduit nulle part, c'est que ça ne dit rien. Enfin, quand on regarde les livres qui sont publiés sur le populisme et qu'on essaye de trouver la définition du populisme, on a des choses assez étonnantes. C'est voilà, des gens qui font appel au peuple. Alors après, je me suis dit, bon, ok, des gens qui font appel au peuple. J'ai été regarder des discours de Fillon ou de Macron en 2017. Je me suis dit, tiens, c'est incroyable, ils font aussi appel au peuple. Par exemple, Fillon, qui était accusé d'un pas mal d'affaires, il disait, de toute façon, je ne vais pas me démettre, seul le peuple me jugera. Enfin, personne n'a accusé Fillon de populisme, etc. Non, parce qu'il occupe le centre du jeu politique, en quelque sorte. Bon. Ça, c'est une autre raison. Et puis, il y a au moins une troisième raison, c'est que populisme, c'est une manière, si vous voulez, de rejeter, pour l'extrême centre, là encore, macroniste en particulier, de rejeter sur d'autres forces la responsabilité de politique que eux mènent. Donc, le danger que ferait peser le populisme serait des politiques autoritaires. Les populistes sont autoritaires, ok. Les populistes sont racistes. Mais qui a mené des politiques autoritaires et racistes au cours des 7 dernières années? Je pourrais étendre à ça à Hollande Valls ou à Sarkozy, en revenir jusqu'en 2007 ou même antérieurement encore. C'est l'extrême centre qui a, en grande partie, c'est eux qui ont été au pouvoir. Ils ont mené des politiques parfaitement autoritaires qui ont fait croître justement l'autoritarisme d'État dont je parlais tout à l'heure, qui ont renié les libertés publiques, qui ont fait des politiques anti-migrants, etc. Tout ça au nom, y compris, de la lutte contre le populisme, du FN, etc. Bon. Donc ça, c'est... Et voilà, donc troisième argument. Et quatrième argument, c'est aussi que l'usage de la catégorie de populisme, ça noie complètement la nature de ce qu'est l'extrême droite. Quand vous dites populiste, finalement, effectivement, vous ne dites plus... c'est vraiment un cadeau qui a été fait au FN, je veux dire. Dans les années 80, on n'aurait jamais eu ce type de discussion. Dans les années 80, le FN, c'est fasciste. C'est fasciste. Il n'y avait aucun doute sur le FN que le FN, c'était fasciste. Ça avait, pour la plupart des gens, dire FN, F comme fasciste, N comme nazi, ça allait de soi, pour une raison assez simple, qui est un peu une raison généalogique. C'est qui a créé le FN ? Des nazis. Des nazis, des anciens nazis, le gars qui dépose les statuts du FN en préfecture, c'est Bousquet, c'est un mec qui était Waffen-SS voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fini Waffen-SS. Vous avez donc des anciens nazis, vous avez des anciens collaborationnistes de diverses obédiences, le parti d'Oriot, le parti de Marcel Déat, voilà, vous avez pas mal de gens qui ont été membres de ces organisations pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des partis collaborationnistes hein, avec l'occupant allemand. Vous avez aussi la génération de ceux qui ont été membres de, ou sympathisants de l'OAS, une organisation terroriste qui commettait des attentats, en particulier en Algérie, enfin en Algérie colonisée et occupée, et sur le sol français, métropolitain. Et puis vous avez toute la génération des jeunes étudiants néo-fascistes des années 50-60 qui se retrouvent au départ, en tout cas au départ du FN. Donc dans les années 80, ça fait absolument pas de débat sur le fait que le FN, enfin quasiment pas de débat, le fait que le FN c'est une organisation fasciste, créée par des fascistes, dans le but de créer une vitrine respectable pour la vieille extrême droite ou les différentes chapelles de l'extrême droite française. Et puis il y a quelque chose qui change et il y a toute une série d'intellectuels, quelqu'un comme Pierre-André Taguieff et quelques autres, qui développent l'idée que finalement, maintenant, on est passé à quelque chose d'autre, que le FN, finalement, c'est plus le fascisme, peut-être même c'est plus l'extrême droite, et que finalement, c'est quelque chose d'une nature tout à fait différente, qui est le populisme, etc. Parfois, on dit le national-populisme. Voilà. Mais dans la perspective de ces gens, ça a surtout permis délégitimer la gauche, en disant toute gauche qui, finalement, s'oppose au cours néolibéral du monde, qui formule des critiques à l'égard des politiques qui sont menées, notamment en matière économique et sociale, mais pas seulement, est coupable de populisme. Voilà, donc il y a un enjeu, je crois, assez fort à rétablir en quelque sorte la catégorie de fasciste, néo-fasciste si on veut, nouveau fascisme, bon, pour désigner cet ennemi précisément. Alors du coup, c'est quoi qui caractérise ces fascismes, qu'est-ce qui permet de dire que finalement toutes ces forces d'extrême droite du passé ou du présent et de différents pays ont une nature similaire, qu'est-ce qui d'une certaine manière est commun à l'ensemble de ces extrêmes droites passées ou présentes et de France comme d'Italie, sachant que dans chacun de ces pays vous avez différentes extrêmes droites. En France vous avez le RN et Reconquête qui sont les deux mouvances institutionnelles, même si surtout le RN, le Reconquête ayant échoué à obtenir des élus, en particulier à l'Assemblée. Mais vous avez toute une autre série de mouvances. Vous avez l'Action française, vieille mouvance, très vénérable, plus d'un siècle. La mouvance identitaire, qui a été créée plutôt au début des années 2000, après la dissolution d'un groupuscule néo-nazi qui s'appelait Unité radicale. Vous avez ceux qui s'appellent eux-mêmes nationalistes révolutionnaires, qui n'ont rien de révolutionnaire, qui sont des néo-nazis, qui sont issus de la matrice GUD, voilà, qui existe sous différents labels, sous différents noms, en particulier les Zouaves à Paris, mais comme ça a été dissous, ils ont pris y compris d'autres noms, etc. De même que l'identitaire, en étant dissous, ont changé de nom et ont pris des noms un peu par ville, par exemple les Remparts à Lyon, etc. Bon. Mais donc vous avez plein de mouvances, comme il y en a plein en Italie, Forza Nuova, Casa Pound, Fratelli d'Italia, La Lega, avec certaines organisations qui sont plus électorales, institutionnelles, d'autres qui sont plus des orgas de rue. Mais enfin, du coup, il y a des différences idéologiques, programmatiques entre ces différentes mouvances. Qu'est-ce qui fait leur communauté politique, en quelque sorte ? Qu'est-ce qui fait que, malgré tout ça, c'est une famille politique ? Alors, le premier aspect, c'est qu'ils ont une vision du monde commune. Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément un programme commun. Les fascistes se foutent du programme. Faut le savoir. Historiquement, ils s'en foutent. Mussolini, il pouvait dire un jour une chose et le lendemain son exact contraire, selon qu'il s'adressait à des ouvriers d'un côté ou à des fonctionnaires. Par exemple, il allait leur dire l'État, c'est important, voilà, etc. Et le lendemain, il allait parler à des patrons, il allait leur dire l'État est beaucoup trop présent partout, il faut libéraliser, etc. Bon. Et sur toutes les questions. Voilà, les fascistes, ils disent à chacun ce qu'il veut entendre. Pour, disons, obtenir en général des parts de marché électorales. Ce n'est pas quelque chose qui a qui a changé. Donc c'est pas le programme qui les unifie. Le FN a changé plein de fois de programme, ils n'arrêtent pas de changer de position sur toute une série de questions. Le salaire minimum, vous êtes pour, enfin l'augmentation du salaire minimum, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? En 2017, ils étaient plutôt pour, aujourd'hui ils sont contre. Dans les années 80, c'était le parti le plus ultra-libéral. Le modèle de Jean-Marie Le Pen, c'était Ronald Reagan, il espérait lui serrer la main. C'était son grand rêve, et il l'a fait d'ailleurs. Aujourd'hui, Marine Le Pen prétend être une grande critique du libéralisme économique, etc. Enfin bon, ils changent de programme comme de chemise. Ce qui les unifie, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un programme précis, ce n'est pas un programme électoral. C'est une vision du monde qui est faite de quoi ? Premier aspect, c'est fait d'une obsession du déclin. La première caractéristique des fascistes, c'est qu'ils considèrent que tout va à volo, rien ne va plus, les femmes ont des droits, les LGBT ont des droits, en soi, dans la loi, on ne peut pas être raciste. Ça, c'est dur. C'est dur. Enfin, il faut se mettre dans la tête d'un fasciste, c'est dur. Enfin, vraiment, je sais que vous y pensez pas souvent, et pas assez, en tout cas, mais c'est dur. D'ailleurs, il y a des fascistes qui vont jusqu'au bout de ce côté difficile, c'est-à-dire qu'ils disent que la France est morte, c'est trop grand remplacé, et qu'il faut aller en Europe de l'Est, où là, ils ont défendu la blanchité, notamment chez Orban, en Hongrie, et s'installer là-bas, parce qu'au moins là-bas, on pourra créer des communautés blanches, autonomes, là où aujourd'hui, en France, on peut plus, quoi. Enfin, vraiment, on est tellement dominé par les non-blancs, et puis les femmes aussi, que c'est vraiment très difficile. Donc, bon, voilà. Donc, l'obsession du déclin, de la décadence, de la décomposition, du délitement. Délitement qui était un des mots qui était vraiment les plus utilisés dans les quelques tribunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, des militaires. Ça, c'est aussi un bon symptôme morbide, en quelque sorte, comme dirait Gramsci. Il y a eu des tribunes de militaires il y a 2-3 ans qui étaient parues dans la presse, qui avaient été largement signées dans l'institution militaire, ce qui est quand même un truc en soi assez significatif. Même si je ne crois pas à un coup d'État militaire, mais je pense que c'est significatif dans la situation d'avoir des tribunes de militaires qui appellent à une sorte de reprise en main face au délitement de la France et face à ces hordes de banlieue. Ça, c'était aussi une expression qui était utilisée dans la tribune des militaires. Voilà, donc l'obsession du déclin. Donc, ce qui faisait, par ailleurs, de ces tribunes, en partie une tribune fascisante. Hein. Le deuxième aspect de la vision du monde des fascistes, c'est une paranoïa civilisationnelle ou raciale, sachant qu'en fait, derrière ce qu'ils appellent la civilisation ou l'identité, en fait, dès que vous creusez un peu chez les théoriciens de l'extrême droite identitaire en particulier, vous trouvez la race. Enfin, assez vite, chez des gens comme ça, vous allez, ces gens vont vous dire « Oui, c'est vrai qu'on a une culture en commun en Occident, en France, etc. » Enfin, c'est ça qui nous unifie, c'est une culture. Mais derrière, le soubassement, c'est quand même un soubassement racial. Ils le disent, ils le disent pas publiquement. Les dirigeants d'extrême droite, c'est pas leur discours, mais ils ont remplacé la race par l'identité, mais la race n'est jamais très loin. La race n'est jamais très loin, dans son sens pseudo-biologique. Donc, une paranoïa civilisationnelle et raciale, au sens où ce délitement, cette décadence, ce déclin serait lié à la présence sur le sol français, européen et occidental plus largement, la présence massive d'immigrés venant de pays extra-européens. L'immigration, c'est une invasion et c'est une destruction. C'est une destruction de notre nation, c'est une destruction de notre civilisation, c'est une destruction de notre ou de nos identités, c'est une destruction aussi de notre race, pour eux. Enfin bon, il faut mesurer à quel point cet aspect est évidemment crucial dans leur vision du monde. Le troisième aspect, c'est la haine de l'égalité, de toutes les formes d'égalité, égalité sociale, donc la haine, et de tous les mouvements qui portent l'exigence d'égalité. Le mouvement syndical, en tant qu'il porte au minimum une exigence de réduction des inégalités ou de lutte contre les inégalités, le mouvement féministe, évidemment, le mouvement antiraciste, le mouvement LGBTQI+, tous les mouvements qui portent l'exigence d'égalité sont évidemment dans le viseur de l'extrême droite ou des extrêmes droites. La haine de l'égalité. Quatrième point, dans cette vision du monde, il me semble, c'est le rêve, ou plutôt le cauchemar en réalité, mais de leur point de vue, le rêve d'une renaissance nationale, reconquête, si vous voulez, nationale, civilisationnelle, d'une régénération. Ça, c'est un terme que Macron a utilisé, mais c'est un terme de la langue fasciste, en réalité. Hein. Et je ne suis pas certain que ce soit anodin ou hasardeux, ou qu'il soit tombé dessus par hasard. Macron, je pense qu'il y a une volonté d'aller sur le terrain de l'extrême droite, y compris en reprenant ces mots, ces termes, ces expressions. Réarmement démographique, c'est une expression de Orban. C'est une expression de Orban utilisée, à ma connaissance, dans les années 2018-2019. Bon, mais le rêve, le cauchemar d'une, pour nous, d'une régénération nationale, civilisationnelle, raciale, qui ne peut se faire que précisément si on purifie cet espace qu'est la nation ou la civilisation ou la race, bon, dans la version plus néo-nazie. Donc voilà, c'est un peu le cœur, si vous voulez, de la vision, de la politique fasciste, c'est la régénération par purification, la régénération par épuration, qui peut être exprimée d'une manière tout à fait euphémisante, qui consiste à dire ce qu'il faudrait faire pour que la nation retrouve sa grandeur, pour parler comme Trump, « Make America great again », c'est rendre à l'Amérique sa grandeur, ce qui est d'une certaine manière le mot d'ordre de toutes les extrêmes droites. Rendre à la France sa grandeur, retrouver la France d'autrefois. Mais pour ça, c'est pas juste des nationalistes. Des nationalistes, il y en a de toutes sortes. Si vous êtes un nationaliste palestinien, vous n'avez pas exactement cette vision du monde-là. Enfin bon, ou un nationaliste algérien en 1954, ou un nationaliste cubain en 1959, quand l'île est une sorte de colonie des États-Unis. Bon, vous cherchez à effectivement libérer votre pays d'une emprise militaire, économique, culturelle, etc. Bon, ça n'a pas la même signification politique et historique que le nationalisme de type fasciste qui présume que pour libérer la nation, il faut la purifier de tous ces éléments qui empêchent la nation ou la civilisation d'être elle-même, d'être fidèle à ses racines, à son identité, etc. Ça, c'est vraiment la particularité, il me semble, du nationalisme de type fasciste. Et donc c'est important, il me semble, de bien mesurer cette caractéristique spécifique du nationalisme de type fasciste, une régénération nationale ou civilisationnelle ou raciale par purification. Et donc je disais, il y a une formule qui est très souvent utilisée par l'extrême droite pour euphémiser cet objectif de régénération par purification, qui est la mise au pas. Il faut mettre au pas. Alors il faut mettre au pas qui ? Il faut mettre au pas deux choses, essentiellement deux composantes. Les minorités tyranniques, en particulier les minorités ethno-raciales, religieuses, qui nous empêchent, voilà, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui empêchent la France d'être elle-même. Mais aussi la gauche. Parce que précisément la gauche, mais même dans son entièreté, hein, y compris des franges qui ne semblent pas très de gauche, je pense, ici, mais qui sont quand même complices de l'étranger, qui sont le parti de l'étranger. La gauche, c'est le parti de l'étranger. D'ailleurs, c'est une vieille expression de Drumont, qui était un idéologue antisémite important de la fin du XIXe siècle en France, mais qui est reprise telle quelle par quelqu'un comme Éric Zemmour. Le parti de l'étranger. La gauche, c'est le parti de l'étranger. Donc le problème, c'est l'étranger. Et c'est le parti de l'étranger. C'est ceux qui prennent parti pour l'étranger. Donc, la gauche sociale et politique, même la CFDT, je veux dire, enfin, les fascistes, n'ont jamais fait de différence ou de distinction très subtile. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils s'en sont pris à toutes les composantes, pas juste les composantes radicales, révolutionnaires, etc. Ils s'en sont pris à toute la gauche. Dans les camps en Allemagne, il y avait des gens que les communistes ou les anarchistes trouvaient très à droite. Des dirigeants syndicaux qui appelaient pas à la grève, des dirigeants syndicaux qui étaient dans la négociation en permanence, des dirigeants du SPD, du Parti Socialiste Allemand, mais tous étaient considérés comme des ennemis absolus pour l'extrême droite fasciste allemande. Et c'était le cas, partout où ils sont arrivés au pouvoir. Voilà, ce qui est commun à l'extrême droite, ce qui fait sa carte de visite, c'est cette vision du monde, à mon avis, composée de ces quatre éléments. Alors, il y a d'autres choses. Il y a une stratégie particulière, qui est celle de l'extrême droite. Je pense que c'est important de mesurer ça, parce que ça les distingue en partie par exemple, de la droite conservatrice ou de la droite libérale, qui ont un projet, qui par ailleurs ont un projet aussi, une vision du monde qui n'est pas la même que celle de l'extrême droite fasciste. Loin de là, même si, dans les situations historiques de crise du capitalisme et d'instabilité politique, la droite conservatrice et la droite libérale ont toujours su trouver des alliances, n'ayant aucune forme de doute là-dessus quant à l'avenir, mais même quant au présent, puisque c'est ce qui se passe en Italie, en Suède, en Autriche, les droites, conservatrices ou libérales, s'allient avec les extrêmes droites sans aucun problème, sans aucun cas de conscience. Alors, qu'est-ce qui les unifie ? Je crois que c'est aussi une stratégie. Assez souvent, on s'imagine que leur stratégie, c'est juste la violence. Non, stratégie, c'est pas... la violence, c'est quelque chose dont ils ont effectivement utilisé de manière intensive à différents moments, de leur développement, quand ils en avaient besoin. Pourquoi ils en avaient particulièrement besoin, par ailleurs, petite parenthèse, dans l'entre-deux-guerres, et pourquoi ils en ont moins besoin aujourd'hui ? Parce que dans l'entre-deux-guerres, que ce soit en Italie, en Allemagne ou ailleurs, vous aviez en face de vous un ennemi qui était puissant et puissamment organisé, qui était la gauche et le mouvement ouvrier. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de gauche et plus de mouvement ouvrier aujourd'hui. Il y a des syndicats, il y a des organisations de gauche, etc. Mais leur implantation n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était dans l'entre-deux-guerres. Quand les fascistes italiens ont commencé à se développer, le premier développement du fascisme, c'est des milices agrariennes. C'est des milices qui agissent pour le compte, et qui sont payées pour ça, pour le compte des grands propriétaires terriens, pour déraciner le mouvement ouvrier italien, en particulier socialiste, qui s'était développé dans certaines régions agricoles, et pour les priver des droits qu'ils venaient de conquérir. Aujourd'hui, bon, l'extrême droite, dans pas mal de pays, n'a pas vraiment besoin de ça pour se développer. Dans l'Italie, du début des années 20, c'était absolument nécessaire. C'est une période de soulèvement en grande partie révolutionnaire. Il y avait eu les deux années rouges, qu'on appelait en Italie le Biennio Rosso, avec des grandes grèves, des grandes occupations, etc. Et donc, il y avait un besoin pour la bourgeoisie et pour cette extrême droite, pour se développer, de déraciner par la force, par la violence de masse, ce mouvement ouvrier et cette gauche. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, d'une certaine manière, la violence est beaucoup plus périphérique. Elle existe, hein, évidemment, j'en ai parlé, le terrorisme d'extrême droite, les mouvances extra-parlementaires qui commettent des agressions en permanence, parce que c'est dans leur ADN. Enfin, là, ce que j'ai décrit comme la vision du monde implique la violence. Donc, ils commettent des violences, hein, ils en commettront. Et du coup, évidemment, ça pose des questions en termes de riposte et d'autodéfense, etc. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Mais sinon, quand dans le développement des grandes forces d'extrême droite au plan mondial, la violence est beaucoup plus périphérique qu'elle ne l'était dans l'entre-deux-guerres. Et j'insiste, je ne pense pas que la violence soit stratégiquement centrale pour l'extrême droite. Ce qui est stratégiquement central pour l'extrême droite, c'est de se constituer comme une force de une sorte de troisième voie, ce qui a par ailleurs été le nom de pas mal d'organisations d'extrême droite au cours du temps, troisième voie, bon. Troisième voie qui soit, en quelque sorte, c'est l'idée que, enfin, leur stratégie, c'est ni droite ni gauche, ni capitalisme ni socialisme. Nous sommes, en quelque sorte, le parti de ceux qui proposent une autre voie que cette droite bourgeoise capitaliste et cette gauche anticapitaliste, etc. Bon. Et ça s'exprime notamment sur une question, qui est la question de l'ordre, en quelque sorte, où il y a un cocktail qui est absolument... qui est très puissant, en quelque sorte, qui est le cocktail composé de cette idée qu'il faut rétablir l'ordre et que nous sommes, nous les fascistes, enfin nous l'extrême droite, enfin ils disent jamais nous l'extrême droite, mais nous sommes les seules forces qui sont en capacité de rétablir l'ordre, face à, justement, ces hordes de banlieue, face à ces révoltes qui ont eu lieu l'été dernier suite à l'assassinat de Naël, par exemple, face à ces grèves des éboueurs qui déplaisaient beaucoup à l'extrême droite, alors qu'elle était soi-disant du côté de l'opposition à la réforme des retraites. Donc, d'un côté, vous avez ces gens qui nous disent « nous sommes les seuls à pouvoir rétablir l'ordre, la loi, l'ordre, etc. » et en même temps, qui se constituent comme une force subversive. Comme force, comme la seule force qui véritablement défierait le système. Bon, le système, c'est un vieux terme de l'extrême droite, d'ailleurs. Enfin, je pense que quand on entend le système, il vaut mieux se méfier, d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand on dit le système, justement, on ne dit pas grand-chose.
Écoutez les clés des savoirs sur la clé des ondes en compagnie d'Hugo Paletta.
Et je trouve que cette idée de révolte réactionnaire, on la voit sous une forme quasi pure chez des gens comme Javier Milei, qui vient de parvenir au pouvoir en Argentine, ou chez Trump, ou chez Bolsonaro, et notamment donc sous cette forme de libertarianisme autoritaire. Ce qui peut paraître contradictoire quand vous êtes, enfin historiquement, les libertariens, qui ne sont pas à confondre évidemment avec les libertaires, mais les libertariens... classique aux États-Unis avait quand même une certaine forme de cohérence sur le fait qu'ils étaient pour les libertés publiques et pour y compris la liberté de circulation, contre la pénalisation des drogues, etc. Bon, voilà. Et se sont développés des courants, notamment dans les Amériques du Nord et du Sud, des courants libertariens autoritaires qui font en fait travailler en quelque sorte ce cocktail qu'est l'idée de défier l'ordre. Donc on voit Milei faire des tas de rodomontades où il prétend être l'ennemi de la caste. Il a repris d'ailleurs ce terme à Podemos, hein, il se prétend le principal opposant à la caste. Qui est cette caste? Bah, en fait, en réalité, ses amis, si vraiment on prend le terme un peu au sérieux. Mais bon, il est contre la caste. Pareil, caste, ça ne dit pas grand-chose. Hein, bon. Et dans le même temps, en fait, il propose des politiques ultra-autoritaires. On l'a vu sur notamment les premières mesures qu'il a annoncées contre les mobilisations sociales, les mobilisations ouvrières en particulier. Voilà, donc ça, ce cocktail étonnant et puissant, il permet de s'adresser en réalité à toutes les classes. Et c'est ça, enfin, une des forces des fascistes, c'est que c'est quelque chose, enfin, c'est une idéologie suffisamment protéiforme et labile en quelque sorte, et ambiguë. Enfin, et je pense qu'il y a vraiment un fascisme de l'ambiguïté en quelque sorte. La confusion est inhérente au fascisme, parce que précisément, c'est pas un courant doctrinaire. C'est pas comme le socialisme ou l'anarchisme ou le communisme, etc., qui sont des courants ou qui sont fondés sur des doctrines. On n'a pas du tout le même cas dans le fascisme. Il y a des intellectuels fascistes, mais ils n'ont jamais eu aucun rôle central dans les mouvements fascistes. Les dirigeants fascistes et les militants fascistes, ils sont là pour l'action, etc. Mais donc c'est une idéologie suffisamment labile, suffisamment ambiguë pour s'adresser à toutes les classes. Les classes possédantes, en leur proposant en quelque sorte justement le rétablissement de l'ordre.
Ce qui donne en quelque sorte au fascisme et à l'extrême droite globalement ce caractère très particulier qui est cette idée de révolte réactionnaire.
Et en même temps, en quelque sorte, de constituer, ils leur promettent à ces classes possédantes de constituer une sorte de ce que Gramsci aurait pu appeler un relais hégémonique, c'est-à-dire dans une période de crise de consentement, de crise de légitimité pour le pouvoir politique, eh bien, ils leur proposent en quelque sorte de leur donner de leur offrir une nouvelle solution pour gagner en quelque sorte le consentement des masses aux politiques qui sont menées. Bon. On va continuer en quelque sorte, ce qu'ils promettent au patronat actuellement, c'est on va continuer à mener des politiques, ce que fait Orban par exemple, on va continuer à mener des politiques néolibérales, mais on le fera avec une idéologie tout à fait différente qui consiste à pointer en permanence l'ennemi de l'intérieur, mais aussi d'ailleurs des ennemis aussi de l'extérieur, et dire et de défendre nos politiques sur la base de la nation assiégée par ses ennemis. Ce qui n'est pas l'idéologie libérale classique. Bon, l'idéologie libérale du libéralisme économique classique, c'est pas du tout ça. Il s'adresse pas seulement aux classes possédantes, il s'adresse aussi aux couches moyennes. Qu'est-ce qu'il propose aux couches moyennes? Eh bien, de les préserver du déclassement, puisque précisément c'est une préoccupation des classes moyennes, ne pas être déclassé, ne pas tomber en quelque sorte dans les classes populaires, dans le prolétariat, parmi les pauvres, les exclus, etc., notamment que ce soit eux ou leurs enfants. Donc les préserver en quelque sorte du déclassement, les préserver de la mixité sociale et raciale, de les préserver de la promiscuité sociale et raciale avec ceux d'en dessous. Bon. Ça, c'est, je dirais, à mon avis, ce qu'ils promettent, ce qu'ils proposent en quelque sorte aux couches moyennes. Et ce qu'ils proposent aux classes populaires, c'est un ordre nouveau, bon, dans lequel ces classes populaires, mais pas n'importe quelle classe populaire, les classes populaires blanches, seraient enfin respectées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire les vrais propriétaires de la nation, les vrais Français, les Français de souche, qui, du coup, mériteraient une sorte de priorité, d'où le terme de priorité nationale ou de préférence nationale. Hein, en fait, leur situation n'est pas appelé à changer profondément, mais au moins ils seront respectés comme les vrais, en quelque sorte, les vrais propriétaires de la nation. Donc, d'une certaine manière, quand ils s'adressent aux classes populaires, la seule chose qu'ils leur promettent, c'est pas tant des choses sur le plan social, puisqu'on voit au Parlement, ils votent pas quand on propose d'augmenter le salaire minimum, le blocage des prix, etc. C'est une politique d'affirmation blanche. Pourquoi la montée de l'extrême droite, je vais le dire en quelques mots du coup, pourquoi depuis les années 80 cette montée de l'extrême droite a des rythmes différents et avec des temporalités différentes selon les pays? La première réponse qu'on a à cette question en général, c'est ils sont forts, ils sont habiles. Marine Le Pen est très habile avec sa stratégie de dédiabolisation, elle a été super, les médias adorent ça, c'est nous broder le portrait de gens qui seraient particulièrement habiles. Il me semble que si on veut répondre à cette question, en quelque sorte, il faut déporter l'attention hors de l'extrême droite. C'est pas principalement l'extrême droite qui est le responsable ou la responsable du succès de l'extrême droite. Et donc, il y a, à mon avis, trois ordres de raisons. Il y a les facteurs économiques et sociaux de long terme, et là, on retrouve les politiques néolibérales. Le principal aspect étant la mise en concurrence, l'intensification de la concurrence, soit sous la forme du libre-échange qui effectivement a impliqué des délocalisations, des fermetures d'usines, d'entreprises, une mise sous pression des salariés au nom de la concurrence internationale, etc. L'intensification du marché du travail à travers toute une série de lois depuis les années 80 qui réduisent les protections pour les salariés, etc. Bon, ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect des politiques néolibérales, l'empêchement de l'activité syndicale et l'offensive massive visant à limiter l'activité syndicale dans les entreprises, qui, de fait, malgré tout ce qu'on peut reprocher aux syndicats sur plein d'aspects, qui, de fait, permet, en général, dans les entreprises, d'avoir un minimum d'appui ou de résistance aux politiques patronales, etc. À ça, on pourrait ajouter les transformations objectives et matérielles du capitalisme français et plus largement occidental vers, par exemple, la fin des grandes forteresses ouvrières qui étaient des grands bastions syndicaux, politiques, qui permettaient quand même d'assurer un peu la force, en quelque sorte, de la classe ouvrière, de la classe travailleuse. Donc, depuis les années 80, on a eu un déclin de ces organisations de défense de la classe du fait des grandes transformations du capitalisme dans les pays du centre de l'économie capitaliste mondiale, du système capitaliste mondial. Ça c'est un premier ordre de raison qui explique à mon avis à long terme la montée de l'extrême droite, parce que intensifier la concurrence notamment sur le marché du travail, c'est stimuler en quelque sorte, enfin c'est activer ce qui est un des moteurs de la progression de l'extrême droite, à savoir la progression du racisme. Pas le racisme sous sa forme la plus idéologique, celle qui est développée par les groupuscules ou les idéologues, sous la forme la plus basique de l'étranger qui va piquer mon boulot, ou l'étranger vers lequel on va installer des usines qui étaient auparavant en France. Bon. De manière assez... Enfin, fallait vraiment être un peu bêta pour s'imaginer que faire plus de politique de libre-échange, ça aboutirait à ce que tout le monde communie dans le commerce mondial, c'est super, ça adoucit les mœurs, etc. Non, c'était à peu près sûr qu'en augmentant, en intensifiant la concurrence sur le marché international, en mettant les gens en concurrence dans les différents pays, ça alimenterait les aspirations nationalistes et les replis nationalistes dans chacun des pays. Donc ça, c'est un premier ordre de raison. Un deuxième ordre de raison, c'est les facteurs plus proprement politiques. Et c'est, je dirais, le truc évident de la crise de représentation politique, aussi bien du côté des partis traditionnels de la bourgeoisie que des partis qui traditionnellement représentaient, qu'on soit d'accord ou non avec cette représentation, les classes populaires. Bon, il faut mesurer que les deux grands partis qui ont géré le capitalisme français au cours des 50 dernières années, aujourd'hui, pèsent 3% et 2%. Combien fait ? Non, Pécresse, ça fait un peu plus. Ça fait 4%, je crois. Et Hidalgo a fait 3%. Donc le PS et ce qui était le LR anciennement, UMP anciennement, RPR, qui ont pu peser jusqu'à 60 ou 70% dans le champ politique, électoralement, aujourd'hui pèsent plus rien. Donc si vous voulez, ça a quand même des effets. Ça a pour effet une crise de la représentation politique, une crise au sens de Gramsci, une crise d'hégémonie, c'est une crise de la capacité des classes dominantes à légitimer politiquement les politiques qu'ils veulent mener dans la population. Aujourd'hui, la plupart des gens considèrent que ce qu'ils font est illégitime. Macron, dès qu'il est arrivé, assez vite, c'était le président des riches. Hollande, pareil, le président des patrons. Sarkozy également. Enfin, il y a une sorte de crise structurelle de la politique qui n'est pas du tout franco-française, qui est liée en fait au capitalisme néolibéral où en fait la base sociale de ces régimes est étroite, précisément parce que en fait, depuis 40 ans, en réalité, on ne sert plus de manière croissante que les plus riches, les cadres, les plus favorisés. Donc voilà, donc ça, il y a un aspect qui est plus directement politique. Et je crois qu'il faut mesurer à quel point, en France, l'extrême droite a progressé à chaque fois quand la gauche était au pouvoir. Bon. La première percée de l'extrême droite en France, c'est quand Mitterrand arrive au pouvoir et où le FN va faire ses premiers scores en 82 à Dreux, puis en 84 aux européennes, puis en 86 aux législatives, etc. Et donc, ils montent autour de 15% dans cette période-là. Ils étaient entre 0 et 1 avant. Hein. Bon. Et ils progressent pas tellement parce que les électeurs de gauche se déportent vers l'extrême droite dans cette première période, mais parce que les électeurs de droite se radicalisent à l'extrême droite. Enfin, le premier électorat de Jean-Marie Le Pen, c'est des électeurs de droite radicalisés, hystérisés contre la gauche. Même si la gauche mène pas des politiques très à gauche, l'électorat de droite considère que c'est terrible ce qui leur arrive. Et ils trouvent que la droite n'est pas assez musclée face aux socialo-communistes. Bon. Et donc vous avez, à peu près 65% des électeurs de Le Pen en 88, première élection présidentielle, qui sont des gens qui avaient voté Chirac ou Giscard en 81. Et 0% de gens qui avaient voté Marché. Contrairement à une représentation très courante qui est les électeurs communistes sont devenus Front National, non, on le sait pertinemment, c'est faux. Il y a plein d'enquêtes là-dessus, c'est faux. À la rigueur, il y a une portion importante de l'électorat de Mitterrand de 81 qui a voté Le Pen en 88. Donc des déçus en réalité de l'union de la gauche et de la politique du Parti Socialiste. Bon. Et le deuxième grand moment dans lequel... Enfin après, du coup, le FN va rester autour de 15, 16, 17% entre ces années 80 jusqu'aux années 2010. Et la deuxième percée de l'extrême droite, c'est dans les années 2010 sous Hollande. Enfin, et où là, il passe à 25%, 30% et même 42% pour Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle là en 2022. Et là encore, je dirais que le mécanisme, il est double. C'est qu'à la fois, d'un côté, on a, même quand ces expériences ne sont pas à gauche et ne sont pas très à gauche, voire pas du tout à gauche dans le cas de Hollande, on a une radicalisation de la droite. Bon, par exemple, sur la question de la manif pour tous, où ils trouvent que la droite, que les partis de droite, enfin de une radicalisation de l'électorat de droite, qui trouve que les partis de droite ne sont pas assez fermes, ne sont pas assez durs, etc., face à l'immigration, face à, etc. Donc une partie conséquente se déporte vers l'extrême droite, et une partie de l'électorat qui a gagné Marine Le Pen à la dernière élection, c'était clairement des gens qui avaient voté Fillon en 2017. C'est là où elle a progressé. Et elle apparaît de plus en plus respectable en réalité dans l'électorat traditionnel de la droite. Et du côté de l'électorat, des électorats de gauche ou d'électorats populaires, il y a une forme de désorientation politique et idéologique et intellectuelle. Une perte de repère absolue à voir des partis qui se disent de gauche mener des politiques qui n'améliorent en rien, voire détériorent fondamentalement leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Mais on sait que finalement, les déplacements dans le champ politique électoralement entre Mélenchon et Le Pen, par exemple, ou même Le Pen et Mélenchon, c'est extrêmement faible. Les gens se déplacent de la droite vers l'extrême droite ou du centre-gauche vers la gauche radicale, mais en réalité très peu vers de l'extrême gauche ou de la gauche radicale vers l'extrême droite. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Et puis il y a les facteurs idéologiques qui, à mon avis, permettent d'expliquer aussi la progression de l'extrême droite. C'est alors des choses qui sont un peu plus anciennes, comme l'offensive idéologique contre le marxisme et contre toute idée de classe, de lutte de classe, etc., qui a eu lieu dans les années 80. Évidemment, on est tous un peu trop jeunes, quasiment, désolé, pour avoir une vraie mémoire de ça. Mais quand on regarde, enfin, il y a pas mal de bouquins là-dessus, sur à quel point les années 80-90 ont été une période absolument terrible d'un point de vue idéologique, où en gros, tous les repères qui avaient été idéologiques, intellectuels, politiques, qui avaient été construits, en fait, en réalité, au cours d'un siècle et demi de lutte de classe en France et de constitution, d'organisation de classe, de mouvements de classe, etc., ont été en grande partie perdus. Et aujourd'hui, vous dites classe, classe ouvrière, lutte de classe, vous avez l'air... Enfin, moi, je dis ça dans mes cours. Enfin, je sens que mes étudiants commencent à trembler. Mais en tout cas, si vous n'avez pas une boussole de classe, effectivement, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, de fait. Bon. Donc, il y a une offensive anti-marxiste, notamment. Et il y a aussi tout ce qui, sur le plan idéologique, tout ce qui s'est joué du point de vue... Alors, il y a l'aspect le plus évident, c'est le fait que les forces de centre-gauche et de droite ont banalisé toute une série d'idées d'extrême droite. Bon, le principal agent de fascisation, ou un des principaux agents de fascisation au cours des 15 dernières années, par exemple, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, il a banalisé dans ses discours, dans ses prises de position, dans les politiques qu'il a menées en tant que ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, des idées, des propositions qui étaient clairement associées à l'extrême droite, ne serait-ce que la déchéance de nationalité. Hollande est au moins autant responsable par ailleurs. Hein. Mais Macron, avec Blanquer, etc., ont aussi fait la même chose sur l'islamo-gauchisme, toute une série de catégories qui étaient des catégories de l'extrême droite, qui ont été reprises par la droite ou par le centre-gauche et qui les ont légitimées dans le débat public, dans le débat politique, etc. Mais il y a aussi tout ce qui s'est joué peut-être de manière plus structurelle dans le champ médiatique. Et le fait que, par exemple, les logiques d'audimat ont pris une importance qu'elles n'avaient pas nécessairement avant les années 90 et qui fait que, bon, il y a pas mal de bouquins de sociologie des médias qui montrent ça, ou plusieurs bouquins de sociologie des médias, qui montrent à quel point, à la fin des années 90, dans le JT, par exemple, les JT de France Télévisions, eh bien, on met les questions d'insécurité au premier plan. Et que c'est un truc relativement nouveau et qu'on marginalise totalement les questions sociales. C'est que depuis 25 ans, vous avez par exemple une omniprésence d'une série de questions, et en particulier l'insécurité, qui sont qui évidemment alimentent les rhétoriques d'extrême droite, les idées d'extrême droite, etc. Dernier point que je voulais aborder, c'est sur qu'est-ce qu'on fait face à une situation de ce type-là, où en gros, on fait pas simplement face à des forces qui sont électoralement puissantes, etc., mais aussi à tout un système capitaliste qui, en quelque sorte, favorise le succès de cet ennemi mortel qui est l'extrême droite. Je n'ai pas utilisé cette expression, mais c'est une expression importante. Ce n'est pas un ennemi de n'importe quelle sorte, c'est un ennemi mortel parce que, d'une certaine manière, quand ils arrivent au pouvoir et qu'ils y sont durablement, ce n'est pas simplement une petite intensification des politiques habituelles qui est en jeu. C'est la destruction même des mouvements et des organisations progressistes dans un sens très, très large de progressistes qui est en jeu. D'où l'idée traditionnel dans le mouvement ouvrier que le fascisme et l'extrême droite plus généralement, c'est un ennemi mort, c'est de type mortel. C'est ce qui se joue, c'est des questions de vie et de mort. À la fois des questions de vie et de mort pour les minorités et des questions de vie et de mort pour les organisations et les mouvements qui portent des exigences d'égalité, y compris de manière modérée, disons. Mais je pense qu'il y a un premier aspect qui est presque psychopolitique, c'est ce contre la petite musique qui dit l'extrême droite progresse en permanence et elle va finir par arriver au pouvoir, c'est évident, c'est naturel et on n'y échappera pas, c'est pas gagné. C'est pas gagné pour eux, ils sont forts, effectivement, sur certains plans, notamment électoraux, mais ils ont des tas de faiblesses. Et l'histoire n'est pas écrite et ce qui se passera dépend de notre action ou de notre inaction. Et les seules batailles qui sont perdues, c'est celles qui ne sont pas menées. Donc bon, il y a ce premier aspect et je pense qu'il faut se convaincre qu'ils n'ont pas la partie gagnée. Bon, juste en parenthèse, une de leurs faiblesses, c'est que par rapport à la gauche sociale et politique, ils ont une très faible capacité de mobilisation, par exemple. Pour ne prendre que cet aspect-là, il y en a d'autres. Hein. Quand ils cherchent à mettre des gens dans la rue, l'extrême droite, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire, c'est 500 personnes maximum. Bon, on est loin des millions de gens qui ont manifesté dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites ou contre la loi travail ou contre au moment des gilets jaunes ou contre le racisme à l'été 2020 quand il y a sur les crimes policiers ou sur les questions féministes fin novembre sur les VSS. Donc premier aspect, c'est un aspect psychopolitique, c'est se convaincre que tout n'est pas joué très loin de là, bon, que ce soit au plan national ou au plan mondial. Le deuxième aspect, c'est à quel point la question de l'unité est absolument cruciale. Le combat antifasciste, c'est en premier lieu, même si ce n'est pas que ça, c'est un combat défensif. Et sur les questions de défense, et d'autodéfense au sens large du mot autodéfense, pas que dans un sens strict juste physique, il faut être capable de faire l'unité la plus large. Alors, enfin, on peut discuter sur qu'est-ce que ça veut dire large, mais on est capable, je crois, de s'entendre entre des organisations politiques, syndicales, associatives, pour faire l'unité autour d'enjeux importants contre, par exemple, des lieux d'extrême droite, contre l'implantation de forces d'extrême droite à tel ou tel endroit. C'est déjà suffisamment difficile d'avoir à faire face à des forces électoralement puissantes. Il faut faire en sorte qu'elles ne parviennent pas à s'implanter dans la rue, dans les facs. Ils essayent. Notamment via la cocarde actuellement, dans pas mal de facs. Donc la question de l'unité, on peut en discuter, parce que l'unité, ça mérite à chaque fois d'être discuté un peu plus concrètement selon les villes, selon les rapports de force, selon, etc. Bon. Troisième point, à quel point les solidarités concrètes de terrain sont importantes. Quatrième point, l'importance des batailles culturelles, que ce soit sur des questions où la gauche semble majoritaire dans l'opinion, parce qu'il y en a pas mal, en réalité. Les services, autour des services publics, autour de la question des salaires, autour de la question des conditions de travail. En réalité, les grandes propositions associées à la gauche sont largement majoritaires dans l'opinion. Le problème étant que la plupart des gens sont d'accord avec ça, plus de services publics, plus d'augmentation des salaires, mais qui pensent que personne n'est en capacité de faire ça. Et donc la question, c'est plutôt comment la gauche, au sens large, sociale et politique, est en capacité de mettre en action réellement les gens et de donner un espoir que ces politiques-là peuvent être menées, qui améliorerait immédiatement la situation des classes populaires en particulier. Mais donc, bataille culturelle à la fois pour rendre crédible, même si j'aime pas trop ce mot, des propositions associées à la gauche et qui sont majoritaires dans l'opinion, mais aussi sur des terrains et sur des questions où la gauche paraît faible. Bon, par exemple, la question de l'immigration. Il y a eu une bataille énorme qui a été perdue depuis les années 80 parce que la gauche, et en particulier les deux grandes composantes, et surtout le Parti socialiste, ont renoncé à défendre ce qui était des positions communes pour l'essentiel de la gauche jusqu'aux années 70. Et puis le dernier aspect avec lequel doivent faire, à mon avis, les antifascistes et tous ceux qui veulent lutter contre l'extrême droite, c'est la question de l'alternative. Alternative politique, alternative de société. On ne peut pas échapper à cette question. Je ne dis pas qu'il faut la poser, qu'on va trouver on va craquer le code et qu'on va trouver la solution à ce problème immense. Bon. Mais si on ne pose pas cette question, effectivement, on n'arrivera pas à faire reculer durablement l'extrême droite. L'un de leurs moteurs, c'est qu'ils apparaissent actuellement comme une alternative. Et bon, c'est par ailleurs, c'est un point commun à tous les antifascistes, dans toutes leurs variétés, anarchistes, libertaires, mais aussi communistes, mais aussi d'autres courants du XXe siècle, c'est que ils ne pensaient pas... ils pensaient que la seule manière fondamentalement de détruire le fascisme, c'est de construire une société tout à fait différente.
une société autre que le capitalisme. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment répondu à ces questions du que faire, mais justement, l'idée, c'est quand même d'en discuter collectivement et que je ne pense pas être propriétaire des réponses ou avoir des solutions clés en main à ces questions. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans un topo qui était beaucoup trop long, sans doute.
Vous venez d'entendre Hugo Paletta, sociologue et militant, lors d'une rencontre organisée par la librairie du Muguet. Les clés des savoirs, c'est fini pour aujourd'hui. C'est à retrouver en podcast sur lacledesondes.fr et dans un mois, lundi à 20h sur notre antenne.